Bonsoir et bienvenue à tous dans la tribune de la presse de ce soir. Au sommaire de ce nouveau numéro, processus électoral en RDC, l'opposition, la société civile et la diaspora congolaise proposent un projet de calendrier électoral qu'ils estiment réaliste, réalisable et cohérent, dans lequel ils suggèrent que les élections locales, municipales et urbaines se tiennent après 2016 pour une, je cite, programmation rationnelle. Et puis la Cour pénale internationale a acquitté définitivement Mathieu Ngoudjolo, cet ancien milicien de l'Ituri a été poursuivi pour des attaques armées contre le village de Bogoro en février 2003. Ces attaques ont fait 200 morts. Pour analyser et débattre autour de ces sujets, nous avons Joël Kadedanga, éditeur responsable du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Joël Kadé, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Robert Ndaye Tshisense, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, la chaîne nationale. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, cher confrère.
Et puis au téléphone, Baba Isaac Kalonji, journaliste indépendant basé en Mbujimayi, au Kassai oriental. Baba Isaac, bonsoir.
Bonsoir, confrère.
Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Kéline Kouté, à qui je dis bonsoir.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par cette actualité sur l'opposition et la société civile qui soumettent une contre-proposition du calendrier électoral. La tempête de tropique informe que le projet du calendrier électoral amélioré, conçu par l'opposition politique congolaise et les organisations de la société civile, a été déposé au niveau de la CENI, de la MONUSCO ainsi qu'à d'autres institutions nationales et internationale, mardi 3 mars 2015. L'opposition et la société civile considèrent que parmi les élections prioritaires figurent les élections des députés provinciaux, des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs. En revanche, les opposants et les membres de la société civile proposent le report des élections locales, municipales et urbaines. Selon le Phare, l'opposition et la société civile expliquent leur demande du report des élections locales, municipales et urbaines par la nécessité de procéder à une programmation plus rationnelle et réaliste des scrutins. L'avenir soutient que, hanté par la peur des échéances électorales à venir, l'opposition tenterait de distraire la CENI et l'opinion publique avec sa contre-proposition de calendrier électoral global. En effet, selon le journal, en déposant sa proposition, l'opposition se camoufle derrière une peur bleue de l'après 2016 en trompant l'opinion. Le palmarès annonce que le doute s'installe au niveau du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le journal, revenant pratiquement sur son transigence initiale, la CENI a fait preuve d'ouverture en réceptionnant le contre-projet du calendrier électoral soumis par l'opposition. Le quotidien soutient que cela est un signe évident que les responsables de la CENI ont réussi à mettre de l'eau dans leur vin. Forum des As renseigne qu'à travers cette contre-proposition du calendrier électoral, l'opposition congolaise vise à rectifier, pour ne pas dire corriger, le calendrier élaboré par la CENI que l'opposition qualifie de non consensuel. En effet, pour l'opposition, il compte vient d'amender le calendrier de la CENI afin de le rendre plus réaliste et plus consensuel. Quittons la RDC pour nous rendre aux Pays-Bas, plus précisément à la Cour pénale internationale, dans l'affaire Ngoudjolo. On peut lire sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, la CPI confirme l'acquittement de l'ancien milicien congolais Ngoudjolo Tshui. La Cour pénale internationale a confirmé vendredi 27 février en appel l'acquittement du Congolais Mathieu Ngoudjolo qui était accusé d'avoir dirigé une attaque contre un village en République démocratique du Congo en 2003 ayant fait plus de 200 morts. La chambre d'appel à la majorité confirme le jugement d'acquittement et rejette l'appel du procureur à déclarer à la haie où siège la cour, la juge Sanji Masenono, lors de la lecture de l'arrêt d'appel.
Merci Kéline Kouté. Et parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité de la semaine, c'est le lancement de la première récolte de maïs au parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province de Bandundu par Joseph Kabila, le président de la République. Et nous apprenons que 5000 hectares seront récoltés pour cette saison A, dont les semences ont été plantées en septembre et octobre dernier. On attend la récolte de 4 tonnes de maïs par hectare. Alors, Joël Kadedanga, un commentaire sur cette première récolte.
En tout cas, chapeau bas au chef de l'État qui, en tout cas, pour cette fois-ci a rejoint un peu la voie de Kanyama Kassisi qui avait à l'époque de Moïse Laurent Désiré Kabila résolu le problème du ventre à Lubumbashi pour nous qui y étions et à Mbujimayi. Je crois qu'à cet instant, Kinshasa, Bandundu et Bakongo, les villes qui sont plus proches de Bukangalonzo, ça sera un problème déjà résolu. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Il faudrait qu'il y ait d'autres Bukangalonzo, Kassa Occidental, Kassa Oriental, Okatanga, Omanima, voilà.
Dans toute la République.
Dans toute la République, dans toutes les provinces.
Alors, Robert Ndadjitsin, c'est 4 tonnes de maïs par hectare. C'est quand même beaucoup. Vous êtes aussi satisfait comme Joël Kadidanga?
Oui, je suis très satisfait. C'est un projet ambitieux. Il était temps que nous puissions arrêter à tout moment de faire des importations, même de farine, même des petites choses. La RDC, c'est un grand pays, un pays à la dimension continentale. Bukangalonzo vient remettre de l'ordre dans ce secteur de l'agriculture. Il vous souviendra qu'il y a eu un moment, on a parlé de l'agriculture dans ces pays comme priorité des priorités, mais depuis une dizaine, quinzaine d'années, on n'en parlait plus, on pouvait bien se contenter d'importer des semoules qui viennent des pays, même des pays voisins, qui n'ont pas la taille et la dimension de la République démocratique du Congo. Donc nous saluons ce projet, et comme l'a dit le gouverneur Ngoïka Sanji hier à Bukangalonzo, que c'est pour bientôt Bukanga Mbujimayi. Donc si ça peut s'étendre dans toutes les autres provinces, ça serait une très bonne chose.
Alors Baba Isaac Kalonji, quel commentaire vous pouvez faire à ce stade de fait?
Je sais seulement qu'on fait que c'est un pas que le chef de l'État a réalisé, mais que d'aucuns ne veulent plus jamais entendre parler, parce que c'est pas le chef d'État seul qui peut lancer un projet agro-pastoral de cette dimension-là, pendant que tous ceux qui sont autour de lui, qui ont travaillé avec lui durant le mandat passé et ce mandat, personne ne songe à doter son peuple de tout ce qu'il faut comme bien économique, notamment alimentaire. Donc, mon commentaire est justement lié au fait que le président a fait un pas, mais qui d'autre peut l'emboîter le pas?
Ok. Alors, en même temps, quelle est l'actualité qui domine la semaine chez vous en Mbujimayi?
Chez nous, ici, il fait terriblement calme, étant donné que la semaine dernière, on a eu sur NRK l'usine qui fournit du courant électrique était totalement endommagée par la foudre, et puis on n'a pas eu du courant. Maintenant, on a réparé une machine, on a donné partiellement le courant à quelques-uns concitoyens qui vivent en ville. On attend voir si la réparation des autres machines peuvent intervenir incessamment pour que toute la ville soit approvisionnée. Donc,
okay.
Quand il n'y a pas de courant, avec comme conséquence l'eau potable, il ne faut pas s'y attendre. Donc,
okay.
C'est ça la situation en province. Il y a des cas rares, des visites de domiciliaires par les inciviques armés qui circulent la ville, mais qui ne font pas tout à fait l'unanimité parce que la ville est calme pendant ce temps.
Et l'autre actualité de la semaine, ce sont les opérations de traque des FDLR qui ont bel et bien commencé selon le gouvernement. Et la nouveauté ici, c'est la traque d'une quarantaine des FDLR par les FRDC. Alors Robert Ndaïchi Sensi, vous êtes satisfait aussi?
Je suis très satisfait. Très satisfait pour des forces armées de la République. Parce qu'à un moment donné, l'opinion a eu l'impression que c'est seul pour que les forces armées de la République avancent, il faut qu'il y ait une autre force qui l'accompagne. Il était temps. Vous savez, cette question, cette épineuse question des FDLR doit absolument s'arrêter. Ça fait plus de 20 ans que la République démocratique du Congo a fait preuve de l'hospitalité. Ça fait plus de 20 ans que ces gens ont été à la demande de la France, à la demande de la communauté internationale contre les grès des Congolais, pour que ces gens qui fuyaient la guerre, les génocides chez eux, puissent être acceptés sur les sols congolais. 20 ans, ça suffit. Il était temps que les forces armées, avec toutes les réformes engagées par le gouvernement congolais, engagées par le commandant suprême, il était temps que les tracts de FDLR puissent bien commencer. Donc je suis très satisfait, d'autant plus que c'est une question qui dérange aujourd'hui. Quand vous allez dans les montagnes de Kigogo, dans les montagnes de Masisi, ces gens, non seulement on les a accueillis chez nous, mais ils ont compris que il était temps pour commencer à violer nos femmes, les enfants, empêcher faire des... Donc c'est un groupe armé qui figure parmi les listes noires des Nations Unies qui devrait être marqué. Donc, bravo aux forces armées de la République. Je suis très satisfait. Je crois que c'est la fin d'une aventure qui a duré plus de 20 ans.
Et Joël Kadidanga, vous dites aussi bravo FRDC?
Je continue un peu à être dubitatif, mon très cher confrère, par rapport aux conséquences collatérales par rapport à cette traque de FDLR, hein, et je continue encore à être dubitatif également parce que je ne sais pas, en définitive, au cas où il n'était pas possible de les extraire tous de nos forêts, de nos savanes, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelle est l'autre alternative que la communauté internationale garde au cas où il ne pouvait pas être possible de tous les exterminer ou de les extraire pour les renvoyer chez eux? C'est là où nous disons qu'il est, il ne faudrait pas que l'on forme des terroristes sur notre sol, qu'on demande à Kagame d'organiser le dialogue inter-rwandais pour permettre un retour dans la paix de ces rebelles autant que cela nous a été imposé. Nous avons négocié avec le RCD, Goma, Joseph Kabila a accepté de négocier avec le RCD, le M23, le MLC, ainsi de suite. Il a accepté de se mettre autour d'une table avec ces anciens rebelles. Je crois qu'il y a lieu qu'on demande au Rwanda, qu'on demande à l'Ouganda, autant qu'au Burundi, d'organiser les dialogues entre eux de manière à permettre un retour en paix, en douceur, qu'il y ait une solution politique. Parce que lorsqu'on va poursuivre ces tracts, je me demande, sur leur route, ils vont continuer à tuer les Congolais? Parce que j'ai toujours dit, les FDLR n'ont jamais constitué une menace pour le Rwanda, autant que les ADF Nalu et les LRA n'ont jamais constitué une menace pour l'Ouganda. Que la communauté internationale qui nous avait imposé ces FDLR chez nous puisse également imposer à nos pays voisins d'organiser les dialogues entre eux chez eux des manières à ce que le rebelle rentre en paix.
Ok. Alors, va pas, Isaac.
Vous savez, j'avais juste quelque chose à ajouter par rapport à ce que, si vous le permettez.
De manière très courte.
Oui, de manière très courte. Je n'arrive pas toujours à comprendre cette position de la communauté internationale. Je suis en train de lire un livre du colonel Deller qui a dirigé les opérations turquoises lors des génocides au Rwanda. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de la RDC, la communauté internationale, à un moment donné, s'arrête et réfléchit trop? Il est temps que nous puissions prendre conscience, et d'ailleurs, encore une fois, les FARDC ont prouvé qu'ils sont capables de faire quelque chose.
Alors, Baba Isaac, vous aussi, vous partagez cet avis selon lequel les FARDC sont capables d'en finir une fois pour toutes avec les FDLR?
Je reviens à eux pour dire avec courage le principe de Franz Fanon qui déclare que l'Afrique a la forme du revolver dont la cachette se trouve au Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Congo, terre de prédilection pour toute manœuvre dilatoire, pour tout comportement comme bastion de combine, comme siège de rébellion, comme là où la guerre mondiale peut éclater, c'est-à-dire la troisième. Maintenant que nous avons accepté l'accord cadre d'Addis Abeba, pour lequel vous n'avez aucune connaissance, pour lequel vous n'avez aucune copie là où vous êtes au studio, c'est ça la gravité de la situation, l'accord cadre impose à tous les pays voisins du Congo un dialogue inclusif avec les rébellions éparpillées à travers le monde et notamment à l'est du Congo. Ça ne s'est jamais fait et cet accord n'est jamais appliqué. Quand la force neutre étrangère est venue pour chasser le M23, on n'a pas mis deux jours. Mais comment voulez-vous qu'on aille en tergiversant pour garder les ADF Nalu, garder les FDLR au Congo d'une manière irrégulière, alors que ces habitants-là sont nos frères qui auraient pu eux-mêmes demander à regagner leur pays?
D'accord. Alors, merci beaucoup, messieurs. C'est par là qu'on finit les commentaires sur les deux autres actualités de la semaine. Tout de suite, on passe au premier thème de cette soirée qui est le processus électoral en RDC. L'opposition, la société civile et la diaspora congolaise ont proposé ou proposent un projet de calendrier qu'elles estiment réaliste, réalisable et cohérent. Elles suggèrent que les élections locales, municipales et urbaines se tiennent après 2016 pour une programmation rationnelle. Cette frange de la classe politique congolaise estime que ce projet de calendrier devrait faire l'objet d'échanges formels en vue de dégager un consensus pour l'organisation des prochaines élections dans un climat apaisé et dans les délais constitutionnels. Et tout en restant en accord avec le calendrier de la CENI quant à ce qui concerne l'élection présidentielle, ces acteurs politiques pensent qu'il y a des arriérés électoraux prioritaires qu'il faut privilégier. Le député national Emery Okundji, secrétaire général du FONUS, le dit à Jacques-Yves Moliman.
Les élections des députés provinciaux, de gouverneurs, de vice-gouverneurs et de sénateurs sont prioritaires parce que suspendues au cours du cycle électoral 2011-2016 et doivent être organisées en 2015 pour résoudre la question de leur légitimité. Les élections présidentielles et législatives qui doivent obéir aux contraintes de la Constitution seront organisées en 2016 à la date prévue, soit le 27 novembre 2016, et la prestation de serment du nouveau président élu le 20 décembre 2016. Quant aux élections locales, municipales et urbaines, qui sont plus complexes, mais nécessaires à la consolidation de l'État et de notre démocratie par la base, nous les postposons après 2016 pour une programmation plus rationnelle.
Joël Kadidanga, je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Quelle lecture vous faites de ce projet de calendrier tel que proposé par les opposants?
Il faut d'abord reconnaître que constitutionnellement, il est du devoir, de l'obligation et de la compétence de la Commission électorale nationale indépendante d'élaborer un calendrier électoral en sa qualité d'organisateur des élections. Et le calendrier avait été élaboré et proposé selon qu'on a eu des pressions de la communauté internationale, de la société civile, des opposants et même de quelques membres de la majorité présidentielle. La CENI avait répondu à son devoir, bravo, mais... Lorsqu'on a analysé ce calendrier qui est assorti de plusieurs contraintes, ces contraintes ont démontré que facilement on peut aller au-delà des dates prévues, étant entendu qu'il y a au moins 7 élections dans ce processus et des élections pas le moindre sur un pays qui a une dimension continentale. C'est ainsi, nous sommes déjà habitués dans notre pays où nous avons une opposition qui ne fait que critiquer, qui ne fait que parler sans proposition, mais cette fois-ci, elle s'est distinguée ensemble avec la société civile et quelques membres de la diaspora pour donner un nouveau calendrier. Avant les événements du 19 au 21 janvier dernier, de triste mémoire, notre journal avait accordé une interview à l'honorable Nazem Nazembe, le député provincial du Katanga, qui avait privilégié à l'époque, mais mal suivi, le dialogue pour dégager un consensus. Parce qu'il voyait déjà avant ces événements-là que de part et d'autre, le langage était pratiquement à l'embrasement. Vous sentez du côté de la majorité présidentielle où on vous dit que nous sommes les enfants de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba, ainsi de suite. Or, Lumumba, Kimpanvita, tous ont été tués dans des conditions très mystérieuses et très déplorables. Mais du côté de l'opposition, vous entendez, on vous tient les discours tels que Burkina Faso, Libye et consorts. Mais là où
Donc de l'extrême à l'extrême.
Mmh. C'est à ce niveau-là qu'il a été trouvé utile par Nazem Nazembe que les Congolais organisent les dialogues entre eux. Même. Pas un dialogue sous les auspices de la communauté internationale, entre eux-mêmes pour dégager un consensus, la voie de la sagesse, pour éviter la catastrophe. Parce que ne pensez pas que la balle va choisir tout simplement les gens de la majorité ou de l'opposition. Dans les échauffourées, ne pensez pas que les pierres ne vont tomber que si les policiers de telle ou telle autre tendance. Alors, pour éviter les chaos constructeurs tels que nous y avons assisté, en Libye aujourd'hui, l'État n'existe plus. En Somalie, la Somalie a été effacée de la carte du monde. Et l'Égypte, c'est après plusieurs morts. Et sans parler de Burkina Faso, où vous sentez que les choses ne marchent pas. Alors, si nous voulons aller au-delà, Nazem Nazembe avait conseillé que nous organisions un dialogue et le calendrier de l'opposition vient ainsi à point nommé pour qu'on le confronte au calendrier présenté par la CENI, que la majorité, l'opposition, sous les auspices de la CENI, puisse maintenant dégager un consensus de manière à ce que les élections soient organisées dans un climat de conviviabilité, parce qu'il ne faudrait pas que les élections dans notre pays soient une occasion de la mort de plusieurs Congolais.
Alors, Robert Ndaitisense, vous êtes journaliste à la RTNC, la chaîne nationale. Est-ce que vous partagez le même avis que Joël Kadi?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Joël. Tout simplement parce que pourquoi est-ce que nous voulons toujours prédire les chaos là où il y a possibilité d'arranger? Moi, je pense que en partageant le point de vue de Joël Kadé, lorsqu'il cite quelques pays, printemps arabe, aujourd'hui, qu'est-ce que le printemps arabe nous a amené?
Rien du tout.
Je crois que c'est la catastrophe. Vous regardez aujourd'hui en Libye, deux gouvernements, deux armées qui s'affrontent sur un même pays. Vous regardez la Somalie, vous regardez la Tunisie, même la Tunisie qui avait fait le modèle de... démocratie
à un certain moment.
Il y a demain, aujourd'hui, la liberté d'expression est presque
bafouée.
J'ai suivi il y a deux jours sur une chaîne étrangère la femme d'un blogueur qui a été emprisonné, pour lequel la sanction a été encore alourdie, qui dit la seule chose que le printemps arabe nous a amené, c'était la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression nous a amené, a été confisquée. Vous regardez l'Égypte, vous regardez les autres. Moi, je pense que le Congo a fait preuve, dans beaucoup de cas, a fait la différence. Regardez les rébellions récurrentes, plus de 20 ans sur les, à l'est de la RDC. Toutes ces questions ont été réglées par le dialogue. Les gens se sont mis d'accord, ils se sont mis autour d'une table pour regarder là où ça blesse. Je salue la démarche de l'opposition. C'est une démarche constitutionnelle, Kadil a dit. Il était temps pour qu'on ne dise pas, oui, l'opposition congolaise ne propose pas. Au moins, ils ont fait. Mais nous devons nous regarder en face en ce moment. Nous dire, voilà, la CENI a fait son devoir constitutionnel. La CENI a
Mais proposé... certains politiques disent que ce n'est pas, il n'appartient pas à la, aux opposants de proposer un calendrier électoral.
Non, mais écoutez, la constitution de la République démocratique du Congo est claire. L'opposition est là pour faire les contrepoids, pour faire des contre-propositions. L'opposition n'est pas allée pour dire « Ok, nous mettons tout de côté ». L'opposition dit « Notre contribution ». J'ai même suivi un des opposants qui était dans cette démarche-là, qui parlait d'une contribution positive à l'amélioration du calendrier électoral. J'ai discuté hier soir avec le président, le vice-président de la CENI, qui était dans une audience d'harmonisation avec le vice-premier ministre chargé de l'intérieur, et qui dit il était temps, il a réceptionné le mémo, c'est une démarche démocratique, les opposants doivent attendre maintenant que la CENI puisse répondre. Mais moi, là où je trouve logique et j'estime que Kadel l'a dit, je voudrais juste ajouter, il parle, lorsque une pierre tombe, ça ne tombe pas sur un opposant, ça ne tombe pas sur quelqu'un de la majorité, il ne faut pas que nous fassions des choses dans ces pays pour assouvir nos propres intérêts. Il faut qu'on regarde l'intérêt des Congolais, il faut qu'on regarde où le développement de ces pays. Il faut qu'on se mette en tête que demain, si c'est moi qui suis au pouvoir, est-ce que j'accepterai telle ou telle autre chose? Aujourd'hui, vous regardez au Burkina Faso, on a parlé du Burkina Faso parce que cette expression, j'entends tout le monde ici au Congo qui veut toujours parler de cette expression du Burkina Faso. Est-ce que le contexte du Burkina Faso est le même que le Congo? Je ne pense pas. Est-ce que, mais moi je pense qu'il est temps aujourd'hui. L'opposition a proposé un calendrier. Il y a un calendrier proposé par la CENI. S'il y a moyen d'harmoniser les vues et que l'objectif qu'on aille aux élections, comme c'est la date pour l'élection du président est déjà connue, je crois que ça sera une très bonne chose.
Alors Baba Isaac, vous êtes journaliste indépendant au Kassai Oriental, précisément à Mbujimayi. Quelle analyse vous faites de ce calendrier électoral proposé par les opposants? Allô Baba, vous êtes avec nous? Bon, on va le récupérer après, mais en même temps, Joël Kadi, est-ce que vous pensez que ce calendrier est réaliste tel qu'il est proposé par cette frange de l'opposition et même de la diaspora?
Bon, très cher confrère, au regard, n'est-ce pas, de la promulgation de la loi sur les découpages, au regard de la loi sur le découpage des provinces,
oui.
Vous savez que maintenant, là, nous, il faut un budget additif pour l'installation de nouvelles provinces. L'installation de nouvelles provinces en appelle à l'installation de nouveaux districts, de nouveaux territoires, de nouvelles collectivités, de nouvelles chefferies. Et cela demande beaucoup de moyens. Où est-ce que la RDC aura cet argent pour l'installation de toutes ces nouvelles structures étatiques? Donc, c'est de un. De deux,
c'est la première contrainte de ce calendrier proposé.
C'est la première contrainte de ce calendrier,
okay.
du calendrier de la CENI. Ensuite, il y aura un nouveau personnel politique qui sera engagé au niveau des assemblées provinciales, dont certaines n'ont pas de siège jusqu'à ce jour, les gouvernements provinciaux, dont certaines n'ont pas de siège jusqu'à ce jour. Il y aura des nouveaux gouvernements provinciaux, des nouvelles assemblées provinciales, des nouveaux conseils urbains, des nouveaux conseils municipaux, des nouveaux conseils
et dans 26 provinces différentes.
Et ce, dans 26 provinces différentes. Alors, si nous tenons à respecter le calendrier tel que proposé par la CENI, en tout cas, attendons-nous à ce que ça puisse davantage tirer en longueur. C'est là où je puis facilement rejoindre ces calendriers proposés
par la société civile. Il ne faudrait pas oublier que nous également, nous sommes membres de la société civile. Mm-hmm. Il ne faudrait pas tout simplement voir l'opposition là-bas. Il y a eu des...
Il y a la société civile et même la diaspora, oui.
Qui ont contribué. Oui. Donc, c'est tout simplement pour nous éviter à ce lourd budget qui est demandé. Mon aîné Albert Ndaye l'a si bien dit tantôt, qu'il faudrait que l'on privilégie l'intérêt supérieur de tous les Congolais. Comme vous signalez qu'il y a notre aîné Baba Kalongé en ligne, nous pourrions partir en bougeant.
Oui, alors Baba Isaac, vous êtes avec nous, c'est ça?
Oui, je suis avec vous.
Alors nous parlions du calendrier électoral tel que proposé par l'opposition. Est-ce que vous, comment vous l'analysez ce calendrier électoral par rapport à celui de la CENI?
Il y a beaucoup à dire. D'abord, vous savez qu'en 2006, il y a eu élection sans les locales, les municipales et les urbaines, constitutionnellement prévues. En 2011, il n'y a pas eu de locales, des municipales et des urbaines, pourtant constitutionnellement prévues. Vous le savez mieux que quiconque. Et nous sommes médias, nous devons aider la base à ordonner ses activités avec le sommet, c'est-à-dire les dirigeants et les souverains primaires, le peuple. C'est ça notre mission comme médias. Alors, le message que nous transmettons ne peut pas avoir une couleur. Nous ne voulons pas retomber dans les mêmes erreurs de 2011 et de 2006. Pourquoi? Parce que les dirigeants actuels dans toutes les entités décentralisées, provinces, mairies et communes, dirigent par-dessus parce qu'ils n'ont pas été élus faute des élections. Mais quand vous voulez maintenant organiser les élections, il faut le faire d'une manière objective, avec l'intérêt de tout le monde, notamment l'intérêt supérieur du souverain primaire qui confère les mandats. Est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on le fasse, qu'on échange, qu'on le fasse en harmonie avec ceux qui protestent, ceux qui contestent, qu'on harmonise les vues et le calendrier soit d'abord inclusif, constitutionnel et global.
Mais...
Voilà l'avis que je donne. Mais je ne suis pas sûr que les élections qui n'ont pas eu lieu en 2006 et en 2011... soit prioritairement organisé par rapport aux élections présidentielles, comme les fournisseurs de moyens logistiques et financiers le réclament.
Et donc,
la souveraineté que nous pouvons nous partager un gâteau comme ça brutalement dans une ambiance qui n'est pas normale.
Et donc vous êtes d'avis avec vous partagez le fait que ce calendrier tel que proposé par l'opposition, la société civile et quelques membres de la diaspora est vraiment réaliste selon vous?
Non, mon problème est le suivant. Qu'est-ce qu'une société civile? C'est là le problème. La société civile n'est pas une opposition, mais c'est une force d'équilibrage sociopolitique.
Évidemment.
Et il propose quelque chose. Et compte de ce qu'il propose, ça ne change rien du tout. Les mêmes mandataires qui vont venir, qui seront candidats dans ces élections là-bas, trouveront leur compte. La société civile est le candidat... de chasser les candidats ou de refuser les candidats à se présenter. Pourquoi il y a ce combat-là et un chuchotement?
Okay.
C'est alors... parce qu'il y a un intérêt individuel à la place de l'intérêt du souverain primaire.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Et en attendant, je vous demanderai de vous déplacer un tout petit peu pour que la communication puisse être beaucoup plus fluide. Je reviens dans ce studio avec Robert Ndaye-Kissensé. Il y a Joël Kadé qui évoquait la difficulté du calendrier de la CENI par rapport à la nouvelle loi sur les découpages territoriaux, les nouvelles provinces, les nouvelles assemblées provinciales, etc. Et vous estimez, quant à vous aussi, que ce calendrier de la société civile et les opposants ainsi que de la diaspora est assez réaliste?
Écoutez, dès le départ, le 12 février, lorsque la CENI publie le calendrier, fait déjà l'intention de ceux qui étaient là, à l'opinion nationale et internationale, évoque les contraintes. Je rentre dans ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure, lorsqu'il parle de la loi sur la loi même, l'ordonnance est même dit, c'est une loi de programmation pour les nouvelles provinces, qui est une démarche constitutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure.
Oui.
Faisons un petit calcul. Lorsque vous regardez les entités territoriales administratives décentralisées, hier nous étions à 160 ou 1604. Avec la nouvelle loi de la programmation, la nouvelle publication, vous passez de 1602 à pratiquement 16 000. Ça veut dire que nous aurons des nouveaux conseillers, ça fait 10 fois
plus que
ce qui a été prévu. Mm-hmm. Il est temps d'harmoniser. Vous savez, mon cher confrère, l'œuvre humaine n'est toujours pas parfaite dans tout ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi ? Il y a déjà une base. Les élections municipales, urbaines, les élections locales sont une base, sont ce que je peux appeler les socles, la fondation même d'une démocratie. Si on estime du côté de l'opposition, Baba Amboujima, il a bien dit lorsqu'il parle de la société civile, lorsque les deux se battent, la majorité, l'opposition. L'opposition dit les calendriers irréalistes. La majorité dit c'est un calendrier réaliste. L'opposition civile dit bon voilà, ok, puisque les deux parlent d'irréaliste et de réaliste, voici une alternative. Et je crois qu'il faut qu'on regarde le juste milieu, mais dans tout ce que nous devons faire, c'est de regarder l'intérêt du souverain primaire. Est-ce que le calendrier, si on estime que nous pouvons arranger ça. Moi, je pense que je ne vais pas entrer dans des débats politiques, nous sommes neutres. Moi, je pense qu'il est temps que nous puissions regarder des choses en face, qu'on regarde les propositions et qu'on trouve le juste milieu pour qu'on avance. On ne peut pas bloquer le pays, on ne peut pas bloquer la machine électorale parce qu'il y a tel qui dit, non, soyons réalistes, regardons l'intérêt du peuple congolais, où est-ce que se trouve l'intérêt du peuple congolais, avançons, harmonisons, comme on dit, errare humanum est, l'œuvre humaine n'est toujours pas parfaite.
Et j'espère que c'est cette conclusion que tout le monde est d'accord, et donc on va passer à notre deuxième thème de la soirée qui concerne la Cour pénale internationale. Cette cour a acquitté définitivement Mathieu Ngoudjolo Tchui, ancien dirigeant du Front des nationalistes et intégrationnistes. Voilà, j'y arrive. La CPI a rendu son arrêt sur l'appel interjeté par le procureur de la CPI le 21 décembre 2012 à son encontre. Et au cours d'une audience publique le vendredi dernier à La Haye, la Chambre d'appel a confirmé la décision de la Chambre plénière instance acquittant l'accusé. Elle a rejeté tous les trois motifs d'appel développés par le procureur. Ainsi, l'affaire du procureur contre Ngoudjolo est définitivement close et ce dernier est libre, comme le dit Jeff Ngoy.
La Chambre d'appel à la majorité a rejeté les trois motifs d'appel du procureur. Elle a conclu que la Chambre de première instance 2 n'a pas commis d'erreur dans son application de la norme de preuve au-delà de tout doute raisonnable. Les conclusions des faits, l'évaluation de la crédibilité des témoins et des preuves documentaires de la Chambre de première instance contestées par le procureur sur le rôle de Mathieu Ngoudjolo dans l'attaque du village de Bogoro à Ituri en 2003 n'ont pas été jugées déraisonnables. En outre, les juges d'appel ont conclu que la Chambre de première instance a appliqué la bonne approche dans son processus de prise de décision. C'est depuis le 18 décembre 2012 que l'ancien milicien congolais avait été acquitté de trois chefs de crimes contre l'humanité, notamment le meurtre, le viol et la réduction en esclavage sexuel. Il était aussi poursuivi pour 7 chefs de crimes de guerre. Les prochains rendez-vous judiciaires congolais attendus à la CPI concernent l'arrêt de la Cour sur la réparation des victimes dans l'affaire Germain Katanga et en juin l'ouverture du procès de Bosco Ntaganda.
Robert Ndaïsissé, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale, RTNC, la chaîne nationale. Pour ceux qui viennent de nous prendre à l'instant, comment vous analysez cet acquittement ?
Je suis très déçu. Je suis très déçu. Parce que lorsque vous regardez la genèse même de ce dossier, 2003, il y a eu des morts.
200 précisément.
Dans un village de Bikoro, nous sommes en Ituri. Et lorsque, en 2008, la Cour pénale internationale lance une procédure judiciaire contre les auteurs présumés à cet instant, les victimes se sont sentis consolés, soulagés, parce qu'au moins pour une fois, une Cour pénale internationale devrait siéger sur des cas. 2008, 2009, ouverture du procès, on a évolué, on a attendu plus de 6 ans. Et en décembre, Mathieu est acquitté, il y a eu une procédure en appel, et aujourd'hui, définitivement acquitté. Moralité, c'est que le 200 morts n'ont pas intéressé la Cour pénale internationale.
Mais on dit qu'il n'y a pas de preuves.
Mais écoutez, mais vous parlez de quelles preuves ? Parce que lorsque j'ai suivi ces procès, on parle de trois témoins qui n'ont pas fourni des preuves crédibles. Il faut attendre 6 ans, 7 ans pour qu'on puisse découvrir aujourd'hui que les trois témoins n'étaient pas capables de fournir des preuves crédibles. Je suis très déçu par rapport à ces jugements de la Cour pénale internationale. Parce que pour moi, ces jugements consacrent l'impunité.
à la CPI, il y a Thomas Lubanga, il y a Germain Kambinga, il y a Bosco Tanganda. Donc tout ce que ces miliciens, ces anciens miliciens, responsables miliciens ont commis à l'est de la République démocratique du Congo, viol, recrutement d'enfants soldats, esclavagisme, tout ce qu'on a cité dans votre reportage. Donc toutes ces choses aujourd'hui, on a fait un blackout. Et puis, ma question, en réparation pour ces 200 morts. Donc ce sont des morts qui sont morts pour rien. Moi je pense, je suis vraiment, 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 vraiment déçu pour cet acquis.
Alors Baba Isaac, vous êtes journaliste indépendant basé en Boujimaï au Kassai Oriental. Est-ce que vous partagez la déception de Robert Ndaye Tshisense?
Je ne suis pas non seulement déçu, je suis sidéré, choqué moralement. Je ne peux pas comprendre que les activistes disent d'où l'ex, c'est de l'ex. C'est-à-dire, la loi peut être dure, mais elle reste la loi. Elle est impersonnelle au-dessus de tout le monde. Les 200 morts de Ituri deviennent des victimes résignées, sans défense. Leurs familles sont considérées comme des mouches, des bêtes de somme. Et on libère celui qui était présumé, mais on ne désigne pas, on ne pointe pas du doigt celui qui a été collaborateur ou instigateur ou initiateur de ce massacre. C'est grave ça avec la justice internationale. Alors, maintenant qu'on ne découvre pas celui qui a tué les 200 Congolais, pour lequel il n'y a pas eu de deuil, il n'y a personne qui a pris le courage de déclarer le deuil, et on ne le fera jamais parce que tous ceux qu'on a tués à l'Est, il n'y a pas de deuil. Ok. Maintenant, on libère celui-là pour n'avoir pas été compromis dans les assassinats des 200 Congolais. Mais la justice arrête qui à la place pour corriger cette faute lourde, grave, et avec les allures d'un génocide, parce que quand on a tué trois personnes d'une même espèce, vous comprenez la définition d'un génocide. Alors maintenant c'est un dossier qui sera clos comme ça par la TPI. Non, je suis suffoqué, je suis sidéré. Je n'arrive pas à comprendre que la justice internationale puisse se comporter de cette manière face à un crime contre l'humanité.
Et donc, la sidération du côté de Baba Isaac, la déception de Robert Ndaye Tshisense et vous, Joël Kadedanga, que diriez-vous?
Non, très souvent, j'ai toujours été contre les rôles cobaïstiques que l'on accorde toujours à la République démocratique du Congo. On a toujours pris notre pays comme un cobaye ou sur lequel toutes les théories des sciences, des nouvelles sciences, toutes les nouvelles théories des sciences politiques doivent être appliquées. Vous avez compris aujourd'hui, s'il y a beaucoup de détenus à la CPI, ils sont généralement congolais. Lorsqu'il a fallu appliquer la théorie de 1 plus 4, ça a été appliqué ici chez nous. Donc toutes les nouvelles théories des relations internationales, des maladies, des ceci, de cela, hein, on prend un peu la RDC comme cobaye. Aujourd'hui, la CPI s'est retrouvée devant plusieurs critiques à travers le monde, en Afrique particulièrement. Alors, pour se laver, il avait fallu qu'on trouve quelqu'un qu'on peut acquitter pour qu'on sache qu'au-delà du président libérien qui avait été condamné, au-delà de Katanga et ainsi de suite, il y a quand même la CPI est juste, elle a acquitté quelqu'un. Donc il a fallu qu'on trouve un subterfuge, qu'on trouve un prétexte pour essayer de relever la crédibilité de cette CPI. Mais en fournissant les efforts pour relever la crédibilité de cette CPI, on tombe dans la résignation, on tombe pratiquement dans l'oubli, on tombe dans l'ignorance de plus de 200 morts, plus de 200 âmes qui ont été lâchement abattues.
Et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure à Robert Ndaye. La CPI affirme qu'il n'y a pas de preuves pour lesquelles on peut condamner Mathieu Ngoudjolo.
Ce que je dis, Iberis, c'est quoi? Je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, l'effort pour l'acquittement de Ngoudjolo, c'est tout simplement pour relever la crédibilité de cette cour qui s'est laissée politiser par les instances internationales d'où on ne connaît pas les origines. C'est tout simplement un effort. Donc ça pouvait tomber sur quelqu'un d'autre, mais l'effort fourni ici, c'est pour crédibiliser cette cour. Mais malheureusement, ça tombe. Vous savez, aujourd'hui les Congolais sont considérés comme des mouches, même une mouche quand il faut la battre, il faut qu'il y ait des raisons.
et même quand elle est au-dessus de ta nourriture, tu ne vas pas éclabousser toute la nourriture pour qu'elle s'envole en l'air. Vous allez prendre les précautions. Mais aujourd'hui, vous avez entendu ce qui s'est passé à Ituri, aujourd'hui, ce qui se passe à Beni. Donc il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de responsables qui peuvent être poursuivis. Mais en plus de cela, il faut aussi relever la longue procédure que prend la CPI dans la détection de preuves, ainsi de suite. Mais le temps, il y a l'usure du temps. Et le temps contribue, n'est-ce pas, à l'effacement des preuves. Et en conséquence, la plupart des criminels pourront se retrouver au fur et à mesure que la procédure est tellement longue. Goudjola a été arrêté, l'aîné Ndaki, ça venait de le rappeler ici, en 2008. Mais l'arrêt est rendu en 2014. En 2014, avec un appel en 2015. Donc vous voyez un peu tout ce temps ici. Mais en effet, quelqu'un peut fournir les efforts pour qu'on efface les preuves. Mais là aussi, vous allez encore constater que Goudjola refuse de rentrer au pays parce que tous les politiciens, le meilleur emploi qu'ils paient dans notre pays, c'est la politique. C'est là où nous en appelons aux politiciens qu'ils puissent libéraliser la vie au niveau du social, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, pour que les gens aient au préalable leurs emplois et qu'en politique, on n'y vienne que pour servir.
Alors, on va finir par cette question. Est-ce que vous avez l'impression que la Cour pénale internationale, dans cette affaire, a été neutre? Ou pas neutre?
Pas du tout, parce que si elle avait été neutre, l'aîné qui est en Mbujima, il l'a dit, en acquittant Goudjola, il fallait alors qu'on désigne l'auteur de ces massacres, ses collaborateurs, les complices, il fallait qu'on les désigne. Donc ça serait des gens qui ont été tués aussi, comme ça, comme par une foudre, en tout cas.
Et donc, Robert, vous partagez cet avis?
Oui, mais c'est clair. C'est clair. La Cour est neutre quand il s'agit des intérêts des Occidentaux. La Cour est neutre quand il s'agit des intérêts des Asiatiques. La Cour ne devient pas neutre quand il s'agit des intérêts des Congolais. Baba Isaac l'a si bien dit, non seulement quand il parle d'être sidéré, mais il y a 200 morts. C'est là le problème.
Et en parlant de ça, la Cour a affirmé, la CPI a affirmé que cet acquittement n'appelle pas à une décision sur les réparations au profit des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous pensez que la Cour s'est réveillée un matin, a décidé en 2008, a décidé en 2009, a décidé en 2014 de faire de la farce, les dindons de la farce. La Cour s'est réveillée un matin pour dire, bon voilà messieurs, on vous arrête, on va vous nourrir, on va s'occuper de vous, et soudain, il n'y a plus de traces. Non, il y a un problème. Le problème existe. Il y a eu 200 morts. Même si aujourd'hui la Cour ne peut pas rendre justice à ces morts, à ces innocents qui sont comme ça zigouillés un matin, ils se réveillent, il y aura un jour, le sang de ces 200 morts va créer vengeance. Mais écoutez, je vais terminer par là, à Berry. C'est quand même inconcevable qu'on puisse voir une juridiction internationale à ces niveaux-là, mais pas désigner le coupable. J'aimerais bien un jour que vous puissiez inviter les responsables de la Cour, ici à Kinshasa, qu'on vienne nous dire, voilà, on a acquitté, mais qui est le coupable? Pourquoi le coupable court toujours?
Alors, c'était ça votre conclusion. Et puis, on va aller à Mbujimayi, on va retrouver Baba Isaac Alongi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Ndaichi Sensei en rapport avec l'acquittement qui n'appelle pas à une décision sur les réparations au profit des victimes, telle que l'a affirmé la CPI?
Oh Dieu, j'appuie totalement Ndaichi Sensei d'abord, en tant que confrère. Je comprends sa peine parce qu'il n'est pas à l'Est, il est au centre. Étant au centre, il ne peut que prendre la peine de ses frères de l'Est qui en souffrent. En Ituri, il n'y a pas eu que ce massacre. Et à l'Est du pays, il y a eu plus que ça. À peu près 3 à 4 millions de Congolais ont été tués sans deuil, ni funérailles. Et quand la force neutre est venue pour neutraliser cette force-là qui tuait les gens, vous savez quelle comédie on a joué au Congo. Et on a utilisé les drones, et les drones n'ont pas mis 2 jours pour mettre hors d'état de nuire les M23. Maintenant, les FDLR et les gens d'Ituri qui ont tué sont pratiquement libérés par la Cour pénale, puisqu'il n'y aura personne à poursuivre encore après ce débat-là. Il paraît que acquitter la mort de 200 personnes tuées vulgairement et puis bêtement, c'est une moindre affaire. Et puis, à la CPI, il n'y a que 3/4 des Congolais. Et à la fin, nous serons meurtris, nous serons clochardisés et nous serons même réduits au niveau bestial par la communauté internationale qui soutient les forces qui agissent et à Ituri et à l'Est.
Et donc, vous pensez aussi que la Cour n'a pas été neutre dans ce projet, dans ce procès.
La Cour est une grande farce pour moi aujourd'hui. Maintenant, j'arrive à la conclusion que même tous ceux qui sont là seront libérés sans procès. J'ai comme constat qu'ils seront libérés sans procès parce qu'on dira qu'il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y aura pas de témoins qui présentent la défense de la partie adverse. Donc, ce sont des procès, pour moi, sans objet.
Et donc, c'est par là votre conclusion. Et un dernier mot à Joël, en guise de conclusion.
Je voudrais que le gouvernement congolais puisse comprendre qu'il n'y a pas lieu de se servir de cobaye vis-à-vis des instances internationales. Qu'à un certain niveau, connaît l'amour du Congo et du Congolais, c'est là qu'on en appelle à la sagesse, qu'on organise les dialogues entre nous, pour nous éviter un peu à toutes ces farces, parce que nous sommes devenus vraiment l'objet de la risée mondiale. Tout le monde touche se moquer, on se moque toujours du Congo, on utilise toujours les Congolais comme comédien pour faire rire le monde entier.
Merci beaucoup, et c'est sur cette note que la tribune de ce soir prend fin. Prise de son, Jean-Noël Mokondo et Guy Manzangou, équipe rédactionnelle et coordination Kéline Kouté, supervision Ben Kabamba et présentation Béry Ponkin-Loutchaka. Retrouvez cette émission sur votre site www.radiocafé.net. Excellent début de week-end à tous en compagnie des programmes de la fréquence de la paix.